C'est-à-dire que je vais vous faire d'abord un défilé de photos de manuels en partant rapidement, en pointant un certain nombre de petites choses sans tellement commenter, puis je reviendrai après sur ce que ça nous donne, puisque pour moi, j'emploierai à partir de maintenant le mot méthode, comme les instituteurs l'ont toujours employé, c'est-à-dire pour dire un livret. Une méthode de lecture, c'est un livre, un instrument pour apprendre à lire aux débutants, qu'ils soient des enfants ou des adultes, alors qu'un livre de lecture, c'est un, avec un S, c'est un livre pour s'instruire à l'école en faisant des lectures. Voilà. Donc, j'adopte le vocabulaire en usage de terrain. Après, on viendra sur la naissance de l'usage du mot méthode pour désigner des philosophies ou des théories de l'apprentissage, qui est très tardif. Alors là, je vous apporte abécédaire que je vous présente en entier, c'est celui-là qui est en latin. C'est une édition de 1810, mais c'est un bois du XVIIe siècle et c'est une croisette. Donc on commence une nominée patrice, etc. Avec la petite croix, faut que vous regardiez le noir et pas le blanc. Hein. C'est pas une fleur à quatre pétales, c'est une croix noire sur fond blanc. Parce qu'on commence in nomine Patris en faisant le signe de croix. Vous avez on sait que c'est un abécédaire et pas simplement un livre de prière, puisqu'il y a cet alphabet avec les systèmes des lettres imprimées, double et triple, comme on doit voir, et le problème des S qui s'écrivent différemment en fin et en milieu de lettres, puisqu'en milieu de lettres, ils s'écrivent comme des F, ou presque. Bon, alors vous avez l'oraison dominicale, c'est pas fait pour les clercs, c'est bien écrit avec des sous-titres en français. Oraison dominicale, c'est le Pater Noster, le Je vous salue Marie, le Credo, la bénédiction de la table, etc. Et là, c'est la couverture de 1810, on sait que 19e siècle, c'est pas la même typographie, et vous voyez pas, parce que j'étais pas assez riche pour faire en couleur à l'époque, les voyelles sont en rouge, les consonnes verticales sont en noir, et les compositions sont donc bicolores pour les enfants. Et ça, c'est une petite fille qui a probablement 8 ans ou 9 ans qui a fait sa croix de par Dieu.
Il y a un manuel actuel qui a repris ça.
Pas exactement. Non, mais enfin, on va bien. Bon. Ça, c'était du côté des pauvres. C'est avec ce que je viens de vous montrer que probablement ont réellement appris à lire énormément d'enfants et d'adultes de milieux populaires. Ma position historique, c'est que quand on me dit qu'on a appris à lire avec ce manuel, je ne pense pas a priori qu'on a appris contre, c'est-à-dire indépendamment de lui ou malgré lui. Je pense que les gens à l'époque imaginaient que c'était bien ça produisait l'apprentissage. Ils en donnent des exemples et pour autant que je peux le faire, je les suis, tout en sachant qu'il faudra expliquer ça avec des modèles il faudra que ce soit aussi compatible avec les modèles d'apprentissage de la lecture dont nous disposons aujourd'hui. Les modalités de cognitives de construction de l'apprentissage n'ayant pas changé entre le XVIIe siècle et nos jours. Ça, c'est celui pour les riches, tellement pour les riches qu'il est 1733. Il est pour le fils, pour le grand dauphin. Et il va être ensuite vendu et utilisé. Alors, celui-là, il fait pas 5 pages comme celui que vous venez de voir. Il en fait 350. Alors, on voit toujours la petite croix de Pardieu au point de départ, mais il est en français. Alors, voilà, je pense que alors, du côté des syllabes, on en a comme ça des pages et des pages. Là, on a déjà page 57. Jusque-là, il n'y a eu que des syllabes. Je continue.
Tu peux mettre plein écran, qu'on voit plus grand.
Vas-y, je ne sais pas faire. Je suis en diaporama. Ah, d'accord.
Et donc,
alors. Non. Voilà. Alors, je continue. C'est plus lent. Voilà. Alors, je vous ai simplement voulu montrer que on arrive là à second alphabet, c'est-à-dire que c'est toujours la suite du livre. Et que là, vous pouvez voir très rapidement qu'on est plutôt sur une entrée de type phono, je dirais, ici, avec les sons. On renvoie au « et », on renvoie aux sonorités sous toutes leurs écritures, alors que là, dans le second ABC français, on va avoir une entrée qui est plutôt grapho, puisqu'on va être sur ABC et tous les types d'écriture. Ça prouve qu'il y a quelque chose de relativement savant qui se passe là-dedans, mais vous voyez la durée de ces... Alors, on est là sur des noms propres, des noms à quatre syllabes, aucun texte. on va avoir seulement un texte arrivant à la fin qui va être un conte de 25 pages qui s'appelle Le Prince Chéri, et puis après on va venir sur un catéchisme français-latin. Je saute alors toujours du côté des éducations domestiques. Là, on a typique un manuel pour éducation domestique. Qu'est-ce qui deviennent au 19e siècle? Alors, voilà un éducation domestique, mais pas cher. C'est un abécédaire avec des lettres ornées. Et alors, la seule chose qu'il faut que vous voyez, c'est que en dessous, il tend l'arbalète. On a une segmentation syllabique explicite. B, C. Alors, ça va faire paraître jusqu'à Z. Et après Z, page 34, on a ce petit syllabaire. Alors, pareil, babubububu, mais aucune distinction graphique permettant de penser que ga, je, ji, go, gu, ou sa, ka, ceci, co, cu, pose un problème particulier. On est simplement sur de la liaison graphique. Puis après, on va avoir cette double page de mots épelés, des mots, deux syllabes, quatre syllabes, et quand même du texte, Laurence. Il faut qu'un enfant soit bien obéissant, c'est un texte. Et la justice divine atteint tôt ou tard le coupable aussi. Est-ce qu'il y a un rapport entre la première et la deuxième phrase? C'est à la mère de famille de le dire. Et puis on passe directement là-dessus, et après on n'a plus que des textes, ça c'est le premier. Viens ici Charles, viens auprès de maman, dépêche-toi, c'est toi sur les genoux de maman, maintenant lis ton livre, où est l'épingle pour indiquer les mots? Ça veut dire qu'on voit très bien la scène de lecture où l'enfant pointe chaque mot avec une petite épingle. Voici une épingle, ne déchire pas le livre, il n'y a que les méchants garçons qui déchirent les livres. Charles aura une jolie leçon nouvelle. Épelle ce mot, bon Dieu. Ça veut dire que la procédure d'épellation est toujours là. Maintenant, on va jouer, etc. Ça veut dire qu'on est là sur quelque chose qui n'est pas du tout segmenté, une impression tout à fait ordinaire, un texte long, et qui est travaillé en interaction duelle. Ça s'appelle pas une méthode globale, mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là du côté des écoles? Alors, voici celui, le premier, qui a été acheté à 1 million d'exemplaires pour être distribué gratuitement aux enfants des pauvres par le ministère de l'Éducation nationale, sous Guizot. Alors, il a été fait chez Hachette. L'autre, il n'y a pas d'auteur nommé. Jean-Yves Mollier les a retrouvés. C'est Hachette lui-même, et puis je cherche le collaborateur de Guizot, Laurent, je crois, qui le fait. Et alors, celui-là, il est très différent de la croix de Pardieu. C'est-à-dire que l'entrée, c'est le premier manuel laïque, avec des machines, une croix. Et puis voilà, l'entrée, alors là, on a les syllabes, les voyelles, toutes les voyelles et toutes les écritures des voyelles, les syllabes, mais vous savez, elles ne sont plus dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'elles sont déjà regroupées par famille phonétique, on dirait. Et puis, alors, deuxième exercice, troisième exercice, c'est une leçon, en fait, dont on ne sait pas combien de temps elle va durer. Peut-être une semaine, peut-être davantage. Sixième exercice, page 10, page 15, toujours, on va arriver jusqu'au 13e exercice. On n'a encore pas vu un seul mot. Hein, on n'a vu que des séries syllabiques et des combinatoires de plus en plus difficiles. À la fin, on a les lettres qui changent, le problème de la liaison des mots et le problème des signes de ponctuation. Et on va voir le premier texte donné à lire aux enfants, c'est ça. Et donc, on est en 1831, hein, là. Les petits-enfants ne savent ni parler ni marcher. Vous voyez, c'est syllabé et les lettres qui ne se prononcent pas sont en italique. Et on va avancer comme ça, de lettre en lettre. Vous voyez, là, on est à 23. Ça y est, c'est terminé, c'est plus syllabé, le corps est plus petit, et les lettres qui ne se prononcent pas sont écrites comme les autres, jusqu'à la fin du volume qui doit faire 150 pages. Et on a une petite encyclopédie scientifique par la même occasion. Bon, dans la même période, naît un autre type de méthode, qui est un de longue durée, là, c'est le peigné, qui est finalement, à mon avis, un de ceux qui préfigurent nos manuels modernes, et qui va durer, dont la durée de vie va être de presque 100 ans, puisqu'il va être réédité jusque vers la guerre de 1914, et qui a alors le grand avantage, c'est qu'il donne des procédés. Ça, c'est un livre où il y a beaucoup de livres très intéressants au 19e, parce qu'ils expliquent comment doit faire le maître ou le moniteur. et comment le maître doit expliquer au moniteur qui va s'occuper des débutants ce qu'il va nommer. Alors il y a toujours je montre les lettres et je les nomme, je montre les lettres et je demande aux élèves de les nommer dans l'ordre et en désordre, et puis après je nomme une lettre et je demande à un élève de la montrer, etc. Voilà, donc ça va être, ces procédures là vont durer tout le siècle. Vous voyez, on arrive à deuxième période, on va être sur des lectures de listes de mots syllabées, mais vous voyez qu'il y a de ce côté-là, donc page 11, on est juste après, on arrive tout de suite dans la même page à cumuler la lecture des mots, la lecture de groupes de mots et la lecture de phrases. Ces phrases mises bout à bout ne faisant aucun texte, sauf pour Pérec. L'étude sera utile, la cabane a été solide, il a bu du café, l'élève sera puni, tout ça peut faire une chose intéressante. Mais l'élève apprend, il y a deux choses qui sont nées, c'est d'une part le passage de l'analyse de la syllabe à des combinatoires de mots, puis de groupes de mots et de phrases, et la deuxième chose c'est les révisions. Alors que dans les premiers manuels que vous avez vus, il n'y avait aucune révision, c'est-à-dire qu'on apprenait à chaque fois autre chose, en supposant que l'élève devait avoir mémorisé ce qui était avant. Donc là, on va arriver... Là, vous voyez la partition des syllabes avec les défilés des nasales. Et voilà, on arrive au livre de lecture qui suit l'abécédaire, mais qui est dans le même paquet. Premier livre de lecture courante. Des vertus et des vices. Là, on est sur des textes instructifs et on commence bien par l'amour du travail. Voilà. Le premier livre de 1883 qui récapitule toutes les avancées du 19e siècle, on pourrait même dire que c'est celui-là. Alors, il m'a posé beaucoup d'énigmes hein, parce que je me suis demandé pourquoi d'un seul coup on voyait disparaître les voyelles A, E, I, O, U en début. Pour le I et le N et le U et le M, et tous, et ça à peu près dans les mêmes, à la même époque, dans toute une série de manuels. Le U et le I et le M et le N deviennent les graphies phares. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, la raison en était graphique et pas phonique. C'est-à-dire que la chose qu'il faut que vous remarquiez là, enfin, vous le remarquez, moi j'ai mis des mois à le remarquer, c'est qu'on est sur un couplage lecture-écriture. C'est-à-dire que pour la première fois, la lettre est présentée sous ces deux écritures, imprimées, bas de casse et cursives, quelquefois même aussi avec capitale et majuscule. Et ces lettres-là sont celles qui sont les premières dans l'apprentissage de l'écriture calligraphique à la plume d'oie, puisqu'elles sont simplement faites avec des traits, alors que des bâtons, si vous voulez. Alors, il faut monter et descendre, bien sûr, mais le geste est le geste le plus simple dans l'apprentissage de l'écriture. Et l'inventeur de cette, est un instituteur anonyme, enfin ignoré de l'histoire d'éducation, qui s'appelle Adrien, 1853, qui le premier dit... Il faut aligner l'ordre, la progression d'apprentissage de la lecture sur la progression en écriture, puisque ça permettra que l'un et l'autre s'apportent un mutuel appui, et surtout, ça permettra que les enfants fassent le travail d'épellation dans la copie. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'y avaient pas pensé avant ? Ben parce qu'avant, c'était impossible d'apprendre aux enfants à écrire à la plume d'oie, dans la mesure où c'est une procédure à main levée très difficile à manipuler. En gros, pour un groupe, on ne peut pas commencer avant 9-10 ans l'apprentissage de la plume d'oie, alors que dans la relation préceptorale, on peut être vers 7 ans, mais dans la relation préceptorale, on apprend à lire aux enfants à 4 ans. Donc de toute façon, on est sur une modalité d'apprentissage de disjonction de l'apprentissage de la lecture et de l'apprentissage de l'écriture. En gros, on apprend jusqu'aux années 1870, on apprend aux enfants à lire avant de leur apprendre à écrire, à partir du Second Empire et non pas de Jules Ferry. C'est-à-dire Jules Ferry va récupérer tout ça. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture peut devenir simultané, puisque on a les plumes métalliques, les ardoises, les crayons qui vont arriver à plumes graphite que les enfants peuvent sucer sans s'empoisonner, et puis les craies de talc pour les ardoises qui permettent aux enfants de se faire la main avant de pouvoir manier la plume, alors que dans l'écriture calligraphique, on ne pouvait pas demander aux enfants d'écrire sur des ardoises parce qu'ils apprenaient à appuyer très fort. Et qu'après, c'était une procédure qui était contradictoire avec l'apprentissage de la plume d'oie. s'ils avaient appris à écrire en appuyant, ça retardait d'autant la manipulation de la plume. Et là, le problème est levé. Donc, on aura le schéma, la vignette, comme dans les éducation domestique, puisque maintenant, c'est possible pour tout le monde, qui va mémoriser le I de il ou le N de ni, le N de ni, le N-I, ni, le U, et on va avoir, alors c'est pour ça que effectivement les procédures dont parlait Michel tout à l'heure me sont chères, puisqu'on ne peut pas juger d'une la pertinence d'une méthode d'apprentissage de la lecture sans savoir quels sont les exercices écrits qui vont à ce moment-là se mettre à accompagner l'apprentissage, et à partir de cette époque-là, on a des cahiers d'écriture où les enfants vont copier des lignes de lettres, des lignes de syllabes, des lignes de mots réguliers et des lignes de mots irréguliers. Alors voilà ce que ça donne avec, sur la page de droite, vous voyez, récapitulation. Ça, ça veut dire que ça va devenir un ordinaire des manuels, alors que c'est une nouveauté de mettre en place la récapitulation à des périodes régulières pour réviser tous les acquis jusque-là. Et en bas, vous avez toujours un paratexte pour les mettre, pour expliquer quel est le procédé, comment il faut faire en classe. Et d'une certaine manière, les familles peuvent aussi s'en servir pour savoir comment le maître s'y conduit bien ou pas bien la classe. Voilà la récapitulation terminale. Et c'est le premier livre, le premier texte long. Jusque-là, on a vu que des phrases. Voilà la fin de votre deuxième petit livre. Il est encore syllabé à la première ligne. Mais si vous avez bien fait attention aux leçons du premier et deuxième livret, si vous avez écouté les explications du maître, si vous êtes appliqué, vous avez vaincu les premières difficultés, vous commencez à lire. Quand on sait lire, on peut devenir savant. Quand on sait lire, on peut lire des belles histoires que renferment les livres. Tous les savoirs du monde se trouvent dans les livres, dit la page suivante ou une autre édition. Et là, vous voyez, vous n'avez plus d'écriture. C'est-à-dire qu'on est sur le passage à l'autonomie de la lecture, et les exercices d'écriture vont pouvoir maintenant être sur autre chose. Alors, je vous ai donné, j'apporte un livre de Namur, pour savoir qu'est-ce que c'est la méthode analytique. C'est la méthode analytique, cette fois sans images, va partir de papa et va arriver à, alors, app ou pas, les deux. On a les deux. Pensez que pour les enfants, c'est beaucoup plus facile en décomposition phonétique de prononcer les syllabes inverses. Hein. App, c'est beaucoup plus... alors, problème de décomposition des syllabes. Obéissant, combien il y a de syllabes? Est-ce que c'est la syllabe O ou OB? Et IS, EN. Parce que du point de vue de l'écriture, cette décomposition-là, finalement, est infiniment plus facile que l'autre qui est obéissant, où le B, effectivement, je ne peux pas trouver le B. Alors que ob, je le peux. Donc, il y a toute une discussion pédagogique autour de ça. Bon, vous allez voir là aussi les reprises P-I. Bon, et on va arriver à des mots et très vite des petites phrases. Alors, je vous ai apporté l'inévitable Bochet, puisque lui, il est sur une méthode synthétique. Encore que là, j'ai l'édition de 1960, mais c'est la même, 1907. Il y a la rue à midi, il y a la fête de Noël, c'est-à-dire qu'il y a bien présent dès le premier jour de l'écrit dans le texte que les enfants, soi-disant, ne peuvent pas lire. Ou alors qu'on leur demande de reconnaître globalement. Enfin, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Alors là, c'est l'apprentissage lecture-écriture, hein, lettre, caractère, bâton, lettre, cursive. On continue le mode de... Vous avez les syllabes ac, hoc, c'est-à-dire qu'il y a d'embaucher, vous avez l'héritage de la tradition de la syllabe inverse, avec à chaque fois les mots à copier. Alors, je vous ai mis ça parce que c'est la dernière page du livre. C'est-à-dire la dernière page du livre, vous avez l'alphabet, et puis après vous tombez sur des textes très longs, exactement comme on avait vu avec le livre de 1833, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le matériel, la connaissance du matériel graphophonique, hop, on doit pouvoir tout déchiffrer. Et alors j'ai mis celui-là parce que c'est très drôle, parce que dans la petite poule rousse, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est une méthode globale. C'est un des premiers livres des méthodes globales américaines qui est répertorié facilement, vous le trouvez sur le net, mais qui a été inventé par une institutrice de new-yorkaise, et qui est un texte monosyllabique. Et en fait, un des réponses américaines qui explique la question des méthodes globales dans le sens, ce sens-là aux États-Unis, c'est que toute une série de textes produits par les enfants depuis 1850 à peu près sont des textes monosyllabiques, c'est-à-dire que chaque syllabe a une signification. Donc la question de la division syllabique ne se pose pas puisque chaque unité d'analyse est une unité de sens. Et alors là, c'est un monosyllabique parce que « little » en anglais est une monosyllabe. On n'entend pas, on la décompose pas en « little ». Et pareil, alors le seul problème, c'est scratching. Et autrement, on a les comptines de randonnée. Ce texte a été traduit dans toutes les langues du monde, scolarisé, je crois, 16 langues en 1900, alors qu'il paraît en 1887. Sauf que dans les autres langues, bien sûr, il n'est pas monosyllabique et que les gens ont complètement oublié ce qui faisait son argumentation pédagogique dans le mode de fonctionnement. Alors quoi ? Comment ? Absolument. C'est le problème. Tu as très bien montré dans ton. J'y ai pensé à ce moment-là. Parce qu'on a l'accentuation tonique sur la voyelle et donc elle est claire. Alors que dès qu'on est sur une syllabe non accentuée en anglais, la voyelle disparaît. Donc c'est une vraie invention pédagogique qui a été faite par des pédagogues, je dirais, qui n'étaient pas des linguistes, mais qui le sentaient dans la relation avec les enfants. Le premier manuel est un manuel de 1830, My Ox Is, qui est le fameux MacGoffey, qui a été vendu 120 millions d'exemplaires aux États-Unis, beaucoup aussi pour des éducations domestiques. Qu'est-ce qu'on a en France, en francophonie, du côté des méthodes globales? Alors, je dirais pratiquement rien. Alors, je vous ai retrouvé, il est très mal copié, photocopié, le manuel de lecture globale de 1924 de Madame Rouquier, qui est une directrice d'école maternelle. Alors, la chose qu'il faut remarquer, simplement, c'est que on est sur du texte entièrement cursif. Parce que l'apprentissage en français se fait en copie. C'est-à-dire que la lecture est une lecture en permanence accompagnée de copies avec un apprentissage de l'écriture comme ça se faisait à l'époque. C'est-à-dire on apprend à copier les lettres, à copier les syllabes et à copier les mots. C'est-à-dire qu'en gros, on sent très bien que ce qui va faire l'invention, entre guillemets, des méthodes globales en francophonie, c'est que la méthode synthétique est montée dans l'écriture et la méthode analytique est travaillée sur les textes, mots, syllabes. Et je vous montre la fin. On va arriver, voilà, mot nouveau, Jules, des mules, Jules, une jupe, jujube, mule, mièvre, ramure, bure, etc., mure, pardon, où vont se faire systématiquement les comparaisons de terminaisons, de blocs, comme on aurait dans la méthode naturelle. Avant-dernière leçon, on abandonne l'écriture cursive pour le passage à l'écriture imprimée. On est en 1924, alors qu'à cette époque, normalement, on vient de mettre en place, au contraire, dans les maternelles, l'écriture bâton, soi-disant pour apprendre aux enfants à écrire dans l'écriture qui est celle des livres. Et là, on a un effet... Alors, Freinet va être contre. Freinet va demander qu'on continue d'utiliser l'écriture cursive. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les gens favorables aux méthodes, entre guillemets, globales dans ce sens-là, demeurent favorables à l'écriture cursive pour l'apprenti dans la production écrite à cause de ce qu'elle oblige du côté des unités de mots, qui sont les unités de signification, alors que le grand problème des écritures bâtons, c'est qu'elles ne distinguent pas les écarts entre les à l'intérieur du mot, des écarts entre les mots, et qu'elles ne se cursivent pas, qu'elles ralentissent beaucoup la production d'écrit. Enfin, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Voilà le dernier chapitre de cette méthode globale qui n'a eu aucun succès. Hein. Elle n'a jamais été rééditée. En France, finalement, la méthode globale française, ça va être la méthode naturelle Freinet, à travers les productions d'enfants et donc de la production de textes, le double fonctionnement, texte à la main pour les productions d'élèves et texte imprimé avec la vérification dans le miroir qu'on a bien tout mis, toutes les lettres une par une, les écarts entre les lettres, etc. Et sur des textes connus des enfants. Rémi et Colette, ça va être pour méthode de lecture mixte. Alors, vous voyez, les acquisitions globales, c'est les deux premières leçons avec les étiquettes. Acquisition globale, indication pédagogique, mot nouveau, toujours le problème de l'écriture. Et apprentissage de l'écriture n'est pas global, évidemment, ça n'existe pas. Donc on va bien être sur les apprentissages des lettres. Voilà, on continue ce mode de fonctionnement-là jusqu'au bout. Je vous en ai donné un autre, méthode de lecture mixte de la même époque, c'est les années 50, à cause de la pipe de papa. Il date de 1855, la pipe de papa chez Michel. On voit des longues durées de la... et ça, c'est le système de... Comment dire? Le système double page est en place jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a simplement... où est la gauche, où est la droite? Là, le texte, comment dire, le travail de décodage mis en place est à gauche et le texte est à droite. Aujourd'hui, on va avoir une inversion. C'est intéressant de savoir à quel moment ça bascule. C'est-à-dire qu'on va avoir Ratus, d'une certaine manière, mais aussi au fil des mots. Déjà, au fil des mots, le texte est à gauche et l'appareil critique est à droite avec le travail de décomposition. Ça veut dire qu'on est dans une situation... On travaille sur un texte connu au lieu de là de préparer le texte. Là, je vous rappelle que le maître lit toujours le texte d'abord, hein. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans un déchiffrage des enfants à vue, mais toujours dans un travail qui est de relecture de texte. Voilà. Point important que pour moi pose l'interprétation de... Alors, je vous ai apporté une biblio des titres étudiés. Sur le Second Empire, j'ai dû en étudier 150 à peu près pour comprendre comment ça marchait. Les points qui me paraissent importants, c'était de se dire comment est-ce qu'on a pu apprendre à lire avec les abécédaires latin puis français. Alors, la chose qui sort très clairement, c'est que on est sur une procédure de décodage d'un texte connu par cœur, ce qui permet aux enfants de s'entraîner tout seuls, puisque Pater Noster, qui est Sinchelis, je l'ai appris. Et une fois que je l'ai appris, je vais apprendre à faire peu à, alors le pater, oui pater, alors peu à, donc c'est pas, et puis après T et R, je dois nommer les lettres, et je dois apprendre que c'est R, et si je me rappelle plus ce que ça fait, je re-récite dans ma tête pour trouver où j'en suis. Donc la nécessité d'avoir un découpage syllabique est très importante. On est sur une méthode analytique de découverte de la procédure de décodage d'un texte connu par cœur, latin puis français. Et ce que Jean-Baptiste de la Salle découvre en mettant en place des abécédaires français contre l'avis de l'évêque de Paris, ou du grand chant de Notre-Dame, pardon, je suis en train de dire une bêtise, c'est que l'enfant a une bien meilleure capacité de vérification de la justesse de son décodage s'il sait un texte en français, parce qu'il peut s'appuyer sur la signification. Donc toute la question va être après des textes de référence qui doivent être des textes connus littéralement. Donc les prières sont parfaites pour ça, et pendant très longtemps, au XIXe siècle, les prières vont continuer de servir d'outils de travail pour le décodage. J'en ai apporté un joli de 1870 qui est sorti de la bibliothèque, et où on a notre Père qui est aux cieux, mais c'est plus difficile que Pater Noster. Bon, à côté de ça, vous voyez l'abécédaire du roi, lui correspond à un autre régime de la définition du savoir lire. En gros, ce que les précepteurs découvrent au XVIIIe siècle, hein, au moment de la naissance de l'encyclopédie, des productions de masse européennes, c'est qu'on ne peut pas penser le modèle de la lecture sur le modèle d'une lecture restreinte à un corpus limité. Et qu'il faut donc mettre en place, pour les enfants de milieux cultivés qui vont vers lire tout et n'importe quoi, des lectures éphémères et des lectures toujours nouvelles, une connaissance exhaustive du système graphophonétique du français. D'où ces centaines de... Alors, ils vont faire une analyse, je dirais, linguistique de toutes les composantes possibles du français, et vous avez ces dizaines et dizaines de pages de syllabes de plus en plus compliquées, de Bâle à Free, P-H-R-Y, que vous trouvez dans Phrygien, mais je ne sais pas si on le trouve dans autre chose, mais on le trouve. Et une discussion sur qu'est-ce qui est un son de la langue ou pas un son de la langue, puisque à l'époque les prononciations du français sont extraordinairement différentes, et vous savez qu'il y a une grande facilité pour les gens du Midi, surtout les problèmes d'analyser, parce que si on lit le printemps ou le shampoing, il n'y a pas de problème d'apprendre qu'est-ce que c'est les en et les un, il n'y a qu'à les lire comme ils sont écrits et tout va bien. Donc, c'est bien dommage qu'on n'ait pas adopté la prononciation de Languedoc, parce qu'elle facilitait considérablement, y compris le problème de M et N devant B et P, puisque là, on ne peut pas dire autrement. c'est vraiment... mais encore au 18e, encore au 18e.
Mais c'est pour ça qu'on a ramené tous les mots récents sur
les mots anciens. On l'a gardé. Alors sur cette question, sur la question des simplifications orthographiques et des réformes, le livre de André Chervel, j'espère qu'on en aura un certain nombre demain, fait le point des 15 réformes orthographiques très importantes qui n'ont pas du tout été menées par l'académie, qui a plutôt été en retard, mais par les imprimeurs et les grammairiens pédagogues au 18e jusqu'à mi-19e, et qu'en gros la grande catastrophe... Je voudrais dire à Sylvie, c'était le moment où les instituteurs ont tous été recrutés sur leurs compétences en dictée. Partir de ce moment-là, on ne peut plus faire de réforme puisque c'est à vue, comme vous disiez. C'est-à-dire que le maître a beau vouloir être de bonne volonté à accepter les réformes de l'académie, quand lui, il a appris que Noël s'écrivait comme ça, et qu'il fallait mettre un accent alors, ou sur poésie, oui. Un tréma, quand un élève ne le met pas, lui, il voit la faute. Et c'est irrépressible, c'est l'effet Stroop. Il ne peut pas s'empêcher de voir la faute.
Et c'est sa compétence en plus.
C'est sa compétence. Et André Chervel montre qu'en 1880, entre 1880 et 1914, le poids de l'orthographe dans le recrutement des instituteurs monte au point que c'est l'épreuve de sélection. C'est 80% du recrutement. Enfin, ça fait 80% du recrutement des enseignants primaires. Donc, en plus, c'est laïque. Puisque tout le monde est d'accord avec l'orthographe, qu'on soit catholique ou anticlérical, et donc pour la paix des familles, 5 fautes 0, c'est formidable. Ça soit une neutralité républicaine qui est de bon ton dans cette époque de bagarre. Mais vous voyez, le problème de la fixation de l'orthographe et des impossibilités qui ne sont pas simplement idéologiques de la réforme actuelle de l'orthographe du français, qui a été d'une certaine manière fixée trop tôt. C'est-à-dire qu'il y avait trop de gens alphabétisés ayant automatisé ces écritures pour pouvoir aller vers la transparence de l'espagnol. Oui, certainement. Allez, je pense que dans la mesure où ça a été abandonné par les classes dirigeantes qui maintenant sont économistes, ça va s'arranger avec les SMS et les emails.
Je ne crois pas.
On va voir. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours la norme, mais tout le monde s'en foutra. Voilà. C'est plutôt ça. Et il faudra trouver des secrétaires, quand ça sera nécessaire, d'écrire propre.
Oui, mais c'est une source de pouvoir.
Oui, oui, mais l'important est d'avoir des secrétaires. Voilà. Ou des correcteurs orthographiques. Voilà. Et c'est ce qui est en train de venir. Mais le problème de l'insertion de ces outils à l'intérieur des procédures d'enseignement dans des environnements numériques demande, à mon avis, de l'expérimentation. Le troisième point, c'est le couplage lecture-écriture. Pour moi, l'enquête historique que j'ai faite me prouve les interactions lecture-écriture, puisque entre le moment où lecture et écriture sont disjointes dans l'apprentissage. Et le moment où elles sont conjointes et liées, c'est-à-dire non pas simplement menées en parallèle, on passe de 3 ans pour l'apprentissage de la lecture à 1 an. Et ça, dans toutes les pays d'Europe où le phénomène a lieu à peu près simultanément. J'en ai des occurrences pour les États-Unis, j'en ai des occurrences pour l'Angleterre. Le premier à le faire, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne le fait beaucoup plus tôt du fait de la régularité. Et on le trouve déjà mentionné dans la formation des pasteurs dès la fin du XVIIe siècle. Bon, donc là-dessus, il y a un point qui maintenant faut renseigner autrement dans des enquêtes d'un autre type. Mais les républicains ont engrangé les avancées didactiques du Second Empire et ont pu, en enlevant la religion, introduire comme savoir obligatoire l'histoire, la géographie, les sciences, c'est-à-dire penser que la lecture allait devenir l'instrument pour apprendre des savoirs, alors que jusque-là, la lecture était la fin de l'école en même temps qu'on engrangeait les savoirs oralement dans des lectures faites par le maître et apprises par cœur. Et la leçon était la récitation de ce qu'il y avait dans la lecture. Donc là-dessus, il me semble qu'il y a des développements à voir dans ce qui se passe aujourd'hui, puisque je pense qu'aujourd'hui, comme en 1850, comme au XVIe siècle, on a des mutations technologiques, la presse de Gutenberg, l'arrivée des instruments d'écriture pour tout le monde, les plus métalliques qui ont été l'équivalent des points de bic, si vous voulez, Et aujourd'hui, le problème d'Internet, des écritures numériques et du fait qui va produire, comme toujours dans un premier temps, une augmentation de l'échec en déportant les exigences. Les exigences, c'était lire seulement un corpus restreint de texte et de venir lire tout ce qui était possible, et ça a produit tout l'échec scolaire du premier 19e. Ce qui résout ce problème en 40 ans, c'est la liaison de la lecture et de l'écriture, mais avec un nouvel échec scolaire dont Michel a parlé, qui est la démocratisation au second degré. Et aujourd'hui, on sent très bien qu'on se déporte des exigences en lecture vers les exigences en production d'écrit et en interaction lecture-écriture, puisque c'est ça que nous demandent de faire finalement toutes les bases de données, toutes les consultations à distance, et que c'est beaucoup plus exigeant du côté de l'apprentissage. Donc je pense qu'on va vers une nouvelle crise de la lecture, on peut s'y attendre, et ça prouve le progrès.